ou la guerre en Ukraine. On y vient avec ce soir cette annonce capitale. L'armée russe se retire officiellement de Kherson. C'est ce qu'elle dit, ville du sud du pays. Kherson, vous le savez, la seule capitale régionale sous contrôle russe jusqu'à maintenant. Impossible de tenir face à l'avancée des Ukrainiens. Annonce, vous allez voir ça, annonce faite en chœur par le commandant des forces russes en Ukraine et le ministre de la Défense russe, Shoigu. Regardez.
Mon camarade ministre de la Défense, après une évaluation complète de la situation actuelle, nous proposons de prendre la défense le long de la rive gauche du fleuve Dniepr.
Sergueï Vladimirovitch, je suis d'accord avec vos conclusions et vos suggestions. Pour nous, la vie des soldats russes a toujours été une priorité. Commencez le retrait des troupes et prenez toutes les mesures pour assurer ce retrait en toute sécurité du personnel, des véhicules et du matériel au-delà du Dniepr.
Oui, la manœuvre des troupes va être mise en œuvre dans un futur proche.
Bonsoir Sergueï Girnov. Merci Bonsoir. D'être avec nous, ancien officier de renseignement du KGB. Bonsoir Xavier Tittelmann. Bonsoir. Merci d'être là, ancien aviateur militaire, rédacteur en chef digital de RE Cosmos. On est avec le colonel Goya, évidemment. Ulysse Gosset va nous rejoindre. Rosine Bachelot, Antoine André sont toujours là. On va détailler ce qui est en train de se passer à Kherson. Mais quand même, cette scène, Sergueï Girnov, que l'on vient de voir, ce mauvais film, ce mauvais feuilleton avec deux mauvais acteurs qui, en direct à la télé, se renvoient comme ça la parole. Encore une fois, c'est pas n'importe qui, ministre de la Défense et le patron des forces russes en Ukraine qui ont cet échange qui a l'air complètement écrit. Oui, je pense qu'il faudrait se retirer. Oui, vous avez raison, on va se retirer. C'est quand même c'est hallucinant ce que l'on vient de voir.
C'est encore de mauvais théâtre. Stanislavski disait dans ces conditions-là, je ne vous crois pas.
Stanislavski, c'est l'acteur studio. Hein.
c'est le metteur, c'est le grand metteur en scène avec la grande école. Mmh. Donc en fait, qui était réaliste. Mmh. Et quand il voyait un artiste sur scène, il devait le persuader pour lui faire croire dans le rôle qu'il jouait. Et il criait « Je ne te crois pas, je ne te crois pas ». Donc les deux, on ne les croit pas.
Ah, vous ne les croyez pas ce soir?
Ah
vous
non,
ne croyez
pas du tout. Ah, pas du tout.
Donc vous ne croyez pas à ce retrait russe?
Non, le retrait, on y est. On y est parce que on a compris que les Ukrainiens ont joué une très 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 bonne stratégie, c'est-à-dire ils l'ont préparé depuis l'été, ils l'ont annoncé à grande échelle, donc au mois de juin. Tout le monde attendait les chars qui allaient débarquer sur les steppes de Kherson. Mmh. En fait, les chars n'arrivaient pas. Et puis ils ont frappé en réalité les ponts. Et ils ont coupé les vivres à ce groupement militaire qui était à Kherson. Et après, ils ont entendu qu'il manque de vivres, de munitions, de tout.
Encore une fois, on va revenir dans le détail, mais cette scène, vous avez dit Tittelmann, c'est quelque chose de quasiment historique de voir ces deux responsables venir à la télé annoncer oui, on se retire.
Non, mais ça ressemble plus au Muppet Show qu'à des hommes politiques qui prennent une décision ensemble. C'était préparé à l'avance, on le sait très bien. Ça fait des mois qu'on sait qu'ils sont en train de s'effondrer. Il y a un mois, j'avais dit, je leur laisse 2 semaines avant de s'en aller. Bon, c'était 3 semaines finalement. Mais dans tous les cas, ils ne peuvent pas tenir dans la zone. Ils sont en infériorité. Quand ils sont sur des plaines ouvertes, comme on a dans le nord, vers Izium, face à face, sans aucun problème de ravitaillement pour les Russes, c'est quand même les Ukrainiens qui partent, qui gagnent. Mmh. Donc là, quand on est dans une zone où les Ukrainiens ont l'avantage, sont plus nombreux, continuent à avoir leur approvisionnement, alors que les Russes sont clairement coincés, dos au mur, avec plus de ravitaillement qui arrive, plus de... Enfin, on sait qu'ils allaient s'effondrer à un moment ou à un autre. Donc là, oui, très bien, ils font sûrement que c'est organisé. Mmh. Une énième, un succès de leur retraite organisée.
Ah, c'est dit comme ça, hein. C'est annoncé comme ça. C'est annoncé bien comme sûr. On a réussi à repousser pendant des semaines les Ukrainiens, on est victorieux, etc. C'est ce que dit
Sorokine. Une victoire, quoi.
Oui, voilà, c'est la victoire qui amène cette débâcle.
Il y a mieux que ça. Vous vous souvenez, quand il faisait le retrait de Kiev, c'était un geste de bonne volonté. Mmh. Et donc, on a inventé aussi un meme. C'est une avance négative.
Mmh. Ah, c'est bien ça.
Oui, il y a tout un narratif aussi pour la population russe sur les soldats, puisqu'on a beaucoup parlé de la chair à canon. On a vu dans un reportage du Monde qui était éloquent sur cette chair à canon, cette boucherie où des gradés envoyaient plusieurs fois au front des soldats à répétition et ils se faisaient massacrer. Il y a aussi ce message-là à usage interne de la société russe, où la contestation commence à poindre, où la vie de nos hommes est plus importante et donc mieux vaut les mettre en sécurité que de les exposer à ce qui serait probablement militairement.
Oui, ils ont d'ailleurs une phraséologie en disant que c'est pour épargner, qu'ils s'occupent bien de leurs soldats, qu'ils font attention à
la vie des civils aussi,
pour accuser aussi le Kiev, hein, parce que en fait il y a toute une partie qu'on n'a pas citée. Ils disent voilà, eux ils bombardent, eux ils utilisent les mauvaises méthodes, eux ils veulent faire sauter le barrage de Kakhovka, eux ils vont inonder donc il y a tout un narratif et surtout politiquement que c'est quand même mortel. C'est quand même mortel. Le 30 septembre, Poutine était dans le Kremlin, dans la salle de Saint-Georges au Kremlin en disant Kherson, c'est pour toujours. On est arrivé à Kherson, mais le Topol, Zaporizhia, etc., etc.
Donetsk et Luhansk.
Donc on y est pour toujours. Et là, il se retire un mois et demi après. Donc bien, c'est pour ça d'ailleurs. Vous avez remarqué, Poutine n'y est pas là. Hein.
Oui. C'est pas lui qui annonce la mauvaise nouvelle.
C'est entre les militaires. Hein. D'ailleurs, Gerasimov, le chef d'état-major, non plus n'est pas là. Non. Donc, c'est Shoigu qu'on dit, en fait, c'est un ministre de la Défense qui ne l'est plus, qui l'est que pour faire Mapecho. Et puis, Sorokine, qu'on disait, le grand général là, qui a bombardé quand même pendant un mois et demi toute l'Ukraine avec beaucoup, beaucoup de dégâts. Quand même.
Ulysse Gosset, quand même, sur le fond, avec cette annonce de retrait, on est à un moment important ce soir de cette guerre, que les Russes officiellement disent « on s'en va ». C'est un moment important.
Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que Joe Biden a réagi tout à l'heure. Il a donné une conférence de presse après les élections.
On va l'entendre, Joe Biden. Vous voulez aller plus vite que la musique. On est en train de le traduire en coulisses.
Mais oui, mais
on court
je vous
donne
le
scoop. Pour traduire ce son de Joe Biden, Ulysse Gosset.
Mais c'est du teasing.
Je vais vous annoncer la nouvelle qu'il va vous donner. Biden savait. Il savait que les Russes allaient évacuer. Enfin, les services de renseignement américains savaient. Et il a eu cette formule intéressante. Je trouve ça intéressant que Poutine ait attendu le résultat des élections pour annoncer qu'ils évacuaient Kherson. Et aux États-Unis, ce qu'on dit ce soir, c'est que en fait, Poutine ne voulait pas annoncer ce retrait pour donner finalement un satisfecit à Biden qui aurait dit, voyez, ça fonctionne.
Vous voulez pas faire ça avant l'élection d'hier soir.
Et ça va donner des voix à Biden. Donc, ils ont attendu le résultat. Et oui, effectivement, vous avez raison de le souligner. C'est ça le plus important. C'est que c'est à la fois une humiliation personnelle pour Poutine qui avait annexé cette ville, cette zone, cette région. C'est l'une des quatre régions annexées. Et ça date d'à peine quelques semaines. Et qui est obligé de rendre cette ville aux Ukrainiens. Donc, c'est effectivement assez étonnant. Le show à la télévision, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'effectivement, il décide de l'annoncer à la télévision. C'est pour ça qu'il n'y a pas simplement le message du retrait, il y a aussi le message aux populations russes pour leur dire on tient compte de la vie de nos soldats, on ne les envoie pas se faire tuer comme de la chair à canon. Est-ce que ça sera entendu par les familles russes dont les proches sont morts au combat? Probablement pas.
Colonel Goya, humiliation a dit ce soir Ulysse Gosset. Est-ce qu'on est face à une humiliation, j'allais dire une nouvelle humiliation? On se pose la question de savoir si c'est l'humiliation de trop pour Poutine.
De trop, je ne sais pas. Une humiliation, oui, bien sûr, c'est une défaite. C'est une défaite majeure, une défaite qui n'est pas une surprise, hein, mais c'est une nouvelle défaite, c'est-à-dire que ça s'accumule. Depuis cet été, il y a une défaite majeure dans la bataille du Nord, dans la région de Kharkiv. Maintenant, il y a une bataille encore qui est perdue, une grande bataille qui est encore perdue maintenant au Sud. Il y en aura, et puis voilà, et ça s'accumule. Il n'y aura pas de bataille décisive dans cette guerre. Il n'y a pas une grande bataille unique qui va décider tout. En revanche, il y aura une série de coups, une série de victoires qui, petit à petit, peuvent aboutir à un effet stratégique. On est dans cette situation. Les Ukrainiens, depuis cet été, sont supérieurs, tout simplement. Ils sont supérieurs en nombre, ils sont supérieurs en qualité tactique. Et donc, ils ont l'initiative des opérations.
Et en mental.
Oui, mais c'est un tout. Mais bien sûr. Mais ils sont supérieurs quasiment en tout. Et ce n'est pas la mobilisation en vrac que des Russes qui changent la situation.
Xavier Tittelmann, il faut raconter comment les Russes se retirent de Kherson avoir tout détruit, après avoir vidé la ville de ses habitants, d'une bonne partie de ses habitants.
Ils ont déporté une bonne partie de la population civile.
Une bonne partie de la population déportée. Les pillages des administrations, des hôpitaux, ils ont tout pris.
Mais ils ont même pris les tombes des hommes grands déconnus, ils ont vidé les musées, ils ont scellé les abris anti-aériens également pour éviter que les Ukrainiens qui arriveraient puissent se préparer derrière.
Mais ce qui est intéressant, ils ont pris les animaux du zoo aussi.
Ils ont tout pris, même les petits trains des enfants, c'est invraisemblable. Par contre, ce qui est contrairement à ce qui a été dit, ils ne pourront pas retirer leur matériel lourd. Leur char, tout le reste, va rester coincé sur la rive droite du Dniepr. Et ça, c'est un problème parce que les 10, 15, 20 000 Russes qui vont réussir à reculer, ils vont se retrouver avec beaucoup moins de matériel lourd. Les Ukrainiens, quand ils vont se redéployer, eux, ils vont garder leur avantage, ils vont garder tout leur matériel.
Et ils vont récupérer ce matériel-là, laissé par
une
les
Russes. Une partie qui n'aurait pas été sabotée, parce que je pense qu'ils vont quand même, cette fois-ci, essayer de la saboter. Mais on est vraiment sur un effet de domino. Ce domino-là est tombé. Les Russes vont se redéployer moins puissants. Les Ukrainiens vont garder leur même puissance et vont aller ailleurs pour augmenter leur puissance.
Ça veut dire que l'issue de la guerre, enfin, dans tout ce que vous dessinez les uns les autres ici ce soir, c'est qu'on ne voit pas quelle autre issue il peut y avoir en dehors d'une avancée ukrainienne qui se poursuit. Oui. Et d'une défaite.
Et qui va s'accélérer.
Il va faire que s'accélérer. Il peut redéployer les troupes qui sont démobilisées de Kherson c'est pour ça. Aller ailleurs.
Mais
et
sans leur
renforcer
matériel,
les positions et garder des positions avant l'hiver.
Mais
et
sans
donc,
leur matériel. Lourd.
Tenir plus longtemps ce front qui est immense, qui fait près de 1000
km. Oui, mais les Ukrainiens aussi.
Mais les Ukrainiens vont faire la même chose. Eux aussi, ils ont le front qui se réduit et ils gardent leurs équipements lourds. Les Russes, ils vont certes se redéployer, mais sans leurs équipements lourds qui vont rester de l'autre côté du Dniepr. Donc il y aura avantage à l'Ukraine aussi sous ce redéploiement.
Ulysse, vous allez être content. Nous avons ce sonore, cet extrait ce soir de Joe Biden qui réagissait évidemment après les élections d'hier soir, mais qui en a donc profité pour parler de Kherson, preuve à quel point cette annonce russe est importante aussi aux yeux du président américain. On écoute Joe Biden.
L'armée russe a de vraies difficultés. Nous verrons si, oui ou non, le retrait de Kherson entraînera un repositionnement de chacun pendant l'hiver. Et nous verrons aussi si, oui ou non, l'Ukraine est prête à faire des compromis avec la Russie.
Sergueï Zhirinov.
Après, il ne faudra pas chanter trop fort pour le moment la gloire. Hein. Parce que militairement, les Russes sont quand même de l'autre côté du Dniepr. Mm-hmm. Donc, ils ont pris des positions. Donc, Kherson reste à la portée de l'artillerie. Russe, même si elle est moins, disons, elle tire à moins, à une moindre distance que les Ukrainiens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dniepr devient maintenant un problème pour les Ukrainiens. Oui. Parce que maintenant, en fait, pour, disons, pour libérer le sud, l'autre partie de la rive gauche.
Donc, la partie orangée qu'on voit à droite de notre carte.
Donc, et vers la Crimée, maintenant, ils seront obligés de descendre plutôt par Zaporizhia, par Melitopol, etc. Donc, en fait, ça leur complique aussi la vie. Pour la petite anecdote, donc, là, cette fois-ci, c'est Joe Biden, en fait. Poutine a attendu les élections. Ça lui est arrivé aussi d'attaquer l'Ukraine en attendant la fin des Jeux Olympiques. Donc, à l'époque, c'était le Chinois.
Oui.
Voilà. Et pour les chars, vous savez, le premier fournisseur de matériel pour les Ukrainiens, ce sont les Russes.
Oui, ça va encore s'accélérer.
Mais Joe Biden a dit aussi ce soir.
Quelle est la but ultime, là, dans cette affaire? C'est la conquête totale de la Crimée.
Pour les Ukrainiens?
Oui, pour les Ukrainiens.
Libération de tout le territoire ukrainien.
Donc, il y a encore des...
Vous avez entendu Joe Biden?
Absolument.
Il a dit, nous verrons si l'Ukraine accepte de négocier. Au passage, Biden a dit qu'il irait au sommet du G20 qui a lieu la semaine prochaine. Or, on a appris ce soir que Poutine n'irait pas. Ce qui explique, c'est... Non, mais c'est important
ça,
parce que...
Ça clarifie les choses.
Voilà,
ça
mais donc, dans les propos de Biden, il y a à la fois, visiblement, une certaine satisfaction de voir Kherson évacué par les Russes, mais il dit encore et à nouveau, et cette fois... publiquement, on le dit depuis une semaine parce qu'il y a eu des informations révélées par la presse américaine sur la visite de Jack Sullivan à Kiev, mais là c'est clair, c'est posé sur la table. Est-ce que l'Ukraine va accepter d'assouplir sa position, c'est-à-dire ne plus réclamer la totalité de la libération du territoire ukrainien, ou est-ce qu'ils vont lancer un signal pour dire nous sommes prêts à négocier?
Sauf qu'après une victoire comme celle-là, on va rester prudent évidemment, parce qu'il va falloir reprendre réellement Kherson, etc., et on sait à quel point ce sera compliqué si le terrain est piégé d'une certaine manière, mais après une telle annonce ce soir, Sergueï Zhirinov, ce n'est pas le moment pour les Ukrainiens de dire ben, on va négocier.
Sauf qu'ils auront besoin d'armes pour tenir pour poursuivre l'offensive. Et comme le dit Sergueï, c'est évident que les Russes, qui ne sont pas complètement idiots non plus, s'ils ont décidé de se retirer et de s'infliger cette auto-humiliation et de finalement à la face du monde, de reconnaître cette nouvelle défaite, c'est qu'ils ont un plan qui va leur permettre de se repositionner et d'attendre l'hiver. Donc la guerre sera longue. Et c'est là où les Ukrainiens auront toujours besoin du soutien américain.
Le retour, il y a quelque chose d'inquiétant aussi, parce que je suis d'accord, il y a Jack Sullivan qui est allé jusqu'à Kremlin, et donc on a dit qu'il a eu des pourparlers avec Patrouchev et Ushakov. Sauf
deux proches de
Poutine, Patrouchev qui est secrétaire du Conseil de sécurité et Ushakov qui est conseiller du président président Poutine. Sauf que le même Patrouchev aujourd'hui était en Iran. En Iran. Et donc, en fait, il y a Sullivan qui lui dit, il faut négocier. La Russie, soi-disant, est prête à, peut-être à rentrer dans le processus de pourparlers. Et tout de suite après, Patrouchev va chercher quand même les missiles et les drones en Iran.
Il y a quand même un paradoxe. C'est quand même que Vladimir Poutine, aujourd'hui, ait besoin, éventuellement, c'est ce qu'on comprend aussi dans ce que vous racontez, Ulysse, que Poutine, éventuellement, aurait besoin des Occidentaux, c'est dire à quel point il est sur la défensive, pour essayer de négocier de ne pas avoir à rétrocéder la Crimée. En fait, on a l'impression d'une inversion des rapports de force qui est totalement
étonnante. Il est absolument évident aujourd'hui, et les Russes ne cessent de le répéter, ils veulent négocier.
Ah oui.
Ils sont tellement en position de faiblesse qu'ils veulent un cessez-le-feu pour pouvoir prolonger la guerre.
Les Occidentaux ont leurs opinions publiques européennes et américaines. C'est pour ça que, à mon avis, Biden et les Européens vont effectivement essayer de faire pression sur Zelensky, parce que eux-mêmes, leur population, sont confrontés dans cette guerre à des dommages collatéraux économiques. Ah oui. Et donc, c'est peut-être la conjonction de tous ces éléments
Xavier Tittelman
qui pourrait pousser à la négociation.
Ah, sauf revirement que j'aurais raté, les Russes, avant toute négociation, ils exigent la démilitarisation de l'Ukraine. Avant de commencer à négocier, ils veulent la démilitarisation.
Ça, c'était avant.
Mais est-ce qu'ils ont changé de position ?
Mais ils sont un peu obligés. Ils ont toujours de faire des concessions. C'est pas facile pour effectivement pour Poutine d'aller à la négociation. Mais elle est dans l'intérêt des Russes aujourd'hui.
C'est les seuls qui ont intérêt à négocier.
Et effectivement, ça sera très dur de convaincre les Ukrainiens parce qu'ils ont le vent en poupe. Ils sentent que la victoire est possible. Sauf qu'ils ont quand même lancé quelques signaux d'alarme au cours des derniers jours, disant on a vraiment besoin de soutien parce l'armée ukrainienne, elle a quand même un défaut important, c'est qu'elle n'est pas très nombreuse. Les Russes ont beaucoup plus de réserves humaines que l'armée ukrainienne.
C'est pas forcément un acquis, mais le problème n'est pas là. En fait, c'est que je suis d'accord, l'Ukraine dépend en fait de l'armement qui est fourni par les États-Unis et l'Europe. Mais le problème, c'est que Zelensky, s'il va parler de pourparlers, il sera rejeté par le peuple ukrainien. Politiquement, c'est impossible de vendre ça devant le peuple ukrainien. Il n'y a personne qui voudra entendre ça. C'est ça le problème. Zelensky, aucun homme politique, aucun militaire ne peut pas prononcer le mot pourparler actuellement en Ukraine. C'est le problème.
La question, que l'on revient à une question qu'on a déjà posée ici, mais qui se pose ce soir sans doute avec encore plus d'acuité après ce qui vient d'être annoncé à Kherson. Que fera Poutine le jour où il sera acculé ? Question qui a été posée notamment ce matin au général Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major de l'armée française. Je rappelle qu'il a démissionné en 2017. On va en parler évidemment. Mais la question lui a été posée par Apolline de Malherbe. Jusqu'où est prêt à aller Poutine ? Jusqu'où peut aller Poutine ? Avec évidemment toujours cette menace nucléaire qui flotte, etc. Question posée au général de Villiers. On regarde et on commente juste après.
Comme beaucoup de gens, j'ai été surpris lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février. Parce que on voit que quand ils disent quelque chose, ils le font. Donc quand un dictateur est dans un tunnel, j'ai toujours retenu ça comme leçon de l'histoire, il ne recule pas.
Un dictateur dans un tunnel ne recule jamais, Sergueï Zhirinov.
C'est ça le problème. Le problème, c'est, je suis d'accord avec le général de Villiers, c'est que Poutine n'a pratiquement plus de choix. C'est-à-dire, il est en train de perdre la guerre conventionnelle. Cette guerre conventionnelle, tout le monde l'a compris. Moi, je l'ai dit dès le premier jour, Poutine ne pourra jamais la gagner d'une manière conventionnelle. Vous pouvez le regarder, vous pouvez relire mon livre, je l'ai dit tout de suite. Le problème, c'est qu'il est acculé d'un côté. Pour lui, c'est inacceptable. La défaite est inacceptable. Et donc, du coup, la possibilité, c'est soit, si Poutine reste, il y a la possibilité d'emploi de l'arme nucléaire tactique contre l'Ukraine. Et sinon, pour la Russie, à ce moment-là, la seule façon de s'en sortir, c'est d'évincer Poutine.
On a quand même colonel Goya, l'ancien grand patron de l'armée française jusqu'en 2017, le chef d'état-major des armées, qui prend visiblement au sérieux cette menace nucléaire, qui dit un dictateur dans un tunnel ne fait jamais demi-tour, et les Russes ont fait ce qu'ils ont dit jusqu'à présent. Et s'il y a cette menace, peut-être qu'ils iront effectivement au bout.
Les Russes et Vladimir Poutine ont beaucoup menti aussi dans le passé, et encore, récemment, je me rappelle, il disait... On a renoncé à aucun de nos deux objectifs. On ira vers Odessa, on continuera. Vous n'avez pas vu, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Vous allez voir ce que vous allez voir.
Je ne bluffe pas, etc.
Je ne bluffe pas. Ouais, combien de fois il l'a dit ? Mais bon, en fait, non. À chaque fois, ça se passe pas comme ça. À chaque fois, vous attaquez les provinces sont maintenant russes, c'est, voilà, toutes les régions annexées sont russes. Et donc maintenant, bah, vous attaquez la Russie, et donc là, les choses sérieuses vraiment vont commencer. Bon, bah, voilà, Kherson va tomber, probablement. Le territoire a déjà été occupé à certains endroits. Ben voilà, la Crimée est frappée et attaquée régulièrement. Bon, ben ok, alors effectivement, il y a eu des frappes. L'escalade, c'était les frappes sur les villes. Mmh. Voilà, c'était la carte que...
Et de mettre à terre quasiment la moitié des centrales électriques.
Oui, non, voilà. Donc ça c'était la réponse. Ça a été l'escalade. Maintenant, je pense qu'on est encore très loin, très très loin du nucléaire. On a parlé, reparlé. Il faut bien comprendre que le nucléaire, l'emploi nucléaire, aura forcément un coût énorme, colossal pour celui qui l'emploie. Un coût diplomatique, un coût militaire, parce qu'il y aura des rétorsions incontestablement. Donc, utiliser cette... En admettant d'ailleurs que Vladimir Poutine soit suivi dans cette décision, ce qui n'est pas forcément si évident que ça. Il y a toute une chaîne humaine derrière, qui, pour se lancer dans une guerre nucléaire, dans un contexte où la patrie n'est pas menacée. Quoi, hein. Donc, il y a un coût énorme, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce qui pourrait justifier l'emploi de l'armée.
Il n'y a qu'une chose qui peut faire reculer un dictateur. Si, il y a des choses, c'est quand son peuple, ou du moins la camarilla qui l'entoure, se retourne contre lui. Il décide de le sacrifier. Et ce n'est pas les Ukrainiens qui feront reculer le dictateur dans le tunnel. Hein.
Les échecs militaires sont fatales en Russie, hein, au régime, hein, quasi systématiquement.
Xavier Tittelmann, c'est la conjonction de ce qui se passe sur le terrain et, comme le dit Orzim Laszlo, de l'entourage qui l'abandonne, qui fera que... Mais,
alors, de mon point de vue, à force d'avoir des échecs militaires, il y a un moment où la pression va être trop forte sur le plan politique. Ils vont devoir se retirer comme ils ont perdu l'Afghanistan. Poutine va sauter d'une manière ou d'une autre. C'est évidemment l'option la plus simple. Parce qu'encore une fois, reprendre toute l'Ukraine par les armes, aux Ukrainiens, ça va leur coûter encore 20 000, 30 000, 40 000 soldats. Et aussi ce coût humain, c'est pour ça aussi, je pense que Biden le dit.
En admettant qu'ils sont remplacés par quelqu'un qui veuille... Oui, faire la paix.
Oui, tout à fait. Ouais, donc il y a une
autre question. C'est même peut-être pas évident.
Mais militairement, même si quelqu'un d'autre voulait pas faire la paix, jusqu'où est-ce qu'ils iraient? Aujourd'hui, si la Russie utilisait la bombe atomique, ce serait encore pire sur le terrain, parce que ça permettrait aux Occidentaux, aux alliés de l'Ukraine, de lui fournir les matériels qu'elle réclame et qu'on lui donne pas. Elle a toujours aucun char occidental, toujours pas de drone tactique, toujours pas d'avion chasse, toujours pas d'hélicoptère, toujours pas de missiles longue distance. Les Américains, ils ont donné 18 HIMARS. Ils en ont plus de 550 en stock derrière. Donc on ne se rend pas compte la disproportion, la possibilité qu'on pourrait d'armer mieux l'Ukraine aujourd'hui, dès demain. Et si la bombe atomique arrivait sur le terrain, là, très clairement, il y aura encore un avantage supérieur pour les Ukrainiens qui seraient mieux armés.
Personne ne se pose la question. Utiliser l'arme nucléaire, pourquoi faire ? Quel intérêt ?
Ça n'a aucun intérêt militaire.
Par exemple, vous vous rapprochez trop près de la Crimée en reprenant Kherson. Ben voilà.
Oui, mais okay, Kherson, c'est impossible. Il faut quand même rappeler que jamais à ce jour, Poutine... ou ses proches conseillers n'ont dit qu'ils utiliseraient l'arme nucléaire.
Non,
ils s'en servent comme d'un chantage. Je voudrais revenir sur le général de Villiers. Il a dit autre chose.
J'ai deux autres extraits. J'ai deux autres extraits pour vous.
Et ça concerne la guerre en
Évidemment.
Europe.
On y va ?
Allons-y.
Allons-y. Je devrais vous donner le programme avant, Olivier Gosset. Ça serait plus simple.
Je suis un très bon teaser.
Max, il spoil ton émission.
Toute l'émission. Écoutez ce qu'il était. Cédric Smaffet, c'est extraordinaire. Je reviens, général de Villiers. On rappelle, démission en 2017, notamment pour protester contre l'insuffisance des moyens loués à l'État, à l'armée française.
Oui, mais il avait raison.
La grande question qui lui a été posée ce matin, c'était de savoir si notre armée serait capable aujourd'hui de mener une guerre comme celle qui se déroule en ce moment en Ukraine. Une guerre à haute intensité. Réponse claire du général. On n'en a pas les moyens. Les hausses de budget militaire annoncées aujourd'hui sont très insuffisantes.
3 milliards pour la France, 100 milliards pour l'Allemagne, vous l'avez dit. Je crois qu'on n'est pas dans la bonne échelle de valeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avions une belle armée avec des soldats marins, aviateurs exceptionnels, reconnus comme tels, la première armée d'Europe en opération. Mais elle était capable de mener des opérations de guerre. Là, il s'agit de gagner une guerre. Ce n'est pas la même échelle, à la fois dans la durée, dans la dureté des opérations... En termes de munitions, ce sont des stocks énormes. En termes de pièces de rechange, il faut revoir notre logistique. Tout ceci mérite d'être revu, corrigé.
Est-ce qu'on est incapable, vous avez dit tellement aujourd'hui, de mener une vraie guerre? On serait incapable de mener une vraie guerre, pas des opérations militaires, c'est ce que dit le général de Villiers, mais mener une vraie guerre.
Non, on a des gens solides, on a des gens motivés, on a du matériel d'exception. Et heureusement, nos voisins ne sont pas capables de nous attaquer. Parce que si on avait un assaut de la taille de ce qu'a subi la Russie, même si notre armée même si notre armée est infiniment mieux équipée, formée, elle n'est pas en nombre suffisant pour résister. L'intérêt des pays du bloc de l'Est, c'est que eux, ils ont encore la masse, même s'ils n'ont pas forcément la qualité, et c'est ça qui a permis à l'Ukraine de tenir. Mmh. Maintenant, notre armée a quand même quelques autres avant elle qui vont la défendre. Mmh. Donc l'armée française, à la limite, elle resterait sur un très bon corps expéditionnaire qui doit se renforcer dans tous les cas. Ce serait suffisant pour ses actions immédiates. Par contre, il faut penser au jour où les Russes vont s'exciter. Là, il va falloir penser à l'OTAN. Et là, il faut imaginer qu'on puisse se retrouver en première ligne. Et là, aujourd'hui, on n'a pas besoin de se défendre. Mais avec tous nos alliés, quand on va aller sur le bloc de l'Est, à ce moment-là, effectivement, ce sera suffisant. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Le diagnostic du général de Villiers, il est partagé par le chef d'état-major actuel. Il a dit exactement la même chose devant la commission, devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Il est partagé également par l'amiral Vandier. Enfin, toutes les huiles qui se sont exprimées devant les commissions parlementaires ont tout dit la même chose. Mais moi, ce n'est pas tellement la capacité de l'armée française qui m'inquiète dans une guerre de haute intensité. Mmh. C'est plutôt la capacité de la population française. Je ne sais pas si...
Le président
a parlé. Si devant, dans une guerre, on aurait la force, le mental, la combativité des Ukrainiens. Parce qu'on est... je pose la question.
Je
ne sais pas si vous avez l'extrait, mais Emmanuel Macron en a parlé aujourd'hui précisément. Il a vraiment parlé.
J'ai pas tous les extraits.
Il a vraiment dit qu'il y avait une dimension de mobilisation des consciences aujourd'hui au regard de ce qui se passe en Ukraine et de se basculer nous notre société dans cet état d'esprit dans lequel la sécurité n'est pas acquise et que ça induit, par exemple, il a parlé des réservistes qu'il fallait doubler, il a parlé du service national universel, c'est-à-dire que il appelle quand même les consciences, à la lumière de ce qui se passe en Ukraine, à se mobiliser justement dans cette idée. Alors, on en est loin.
Alors, attendez, je m'adresse avec solennité au colonel Goya. On a deux choses. Oui. On a que serait capable de faire l'armée française en cas d'une guerre à haute intensité qui serait plus proche que celle en Ukraine, concrètement. Et deuxièmement, l'excellente question de Roselyne Bachelot.
Tout à fait.
Est-ce qu'en tant que nation, nos 65 millions que nous sommes, est-ce qu'on serait capable de réagir comme les Ukrainiens ?
Alors, sur la première question, quelques chiffres simples. Ce qu'on demande aux armées, ce qu'on a le contrat opérationnel d'engagement majeur, c'est de déployer 15 000 soldats et 45 avions de combat. C'est pourquoi aussi peu ? Parce que c'est tout ce qu'on est capable d'équiper complètement, y compris dans les avions de combat. C'est-à-dire qu'il y a plein, par exemple, on n'a pas suffisamment de sous-systèmes, des radars, tout un tas de choses qui permettent d'équiper tous les avions, ou toutes les frégates, ou tous les avions en même temps.
Donc 15 000 soldats, 45 avions.
Bon, 15 000. Donc 15 000, c'est très peu, au passage. Ouais. En 1990, on était capable. Donc ça fait à peu près, ça fait une douzaine de régiments en France, de combats. D'infanterie, de cavalerie, d'hélicoptères de combat, pour parler de l'armée de terre. 1990, on était capable de déployer 120 régiments de combat. En quelques jours, alors que là, on demande des mois. En quelques jours, on pouvait déployer 120 régiments de combat. Mais on avait des régiments.
Ça fait combien d'années? Attendez, on passe de 15 000 à combien? C'était combien en 90?
Mais non, on passe d'une quinzaine de régiments à 120.
120,
c'était en 1990.
Il y a 30 ans.
Maintenant, si on faisait le même effort de défense en pourcentage du PIB qu'en 1990, notre budget ne serait pas de 43 milliards, il serait de 70 milliards d'euros.
Donc on a appauvri l'armée.
Bien sûr, mais c'est ça. Et c'est en partie pour ça que le général de Villiers avait démissionné. C'est-à-dire qu'on a fait 25 ans de crise. Moi, j'ai vécu ça quasiment toute ma carrière.
Ça a touché les dividendes de la paix.
Les dividendes de la paix, c'était une crise pour les armées, qui était une crise de financement. Notre budget de ressources diminuait en permanence. Et il y a eu un petit rebond à partir de 2015, mais on est très loin du compte. Si on faisait le même effort que les Américains, alors on dit, les Américains sont présents, ils fournissent 70% de l'aide militaire, mais ils se sont donné les moyens aussi d'être forts. Si on faisait le même effort de défense que les Américains, notre budget serait de 92 milliards d'euros.
Et pas 43.
Et donc, on serait dans une autre dimension, incontestablement. Et c'est nous qui serions la première armée d'Europe, vraiment. Et on pourrait peut-être...
Attendez, on va revenir à l'état d'esprit. J'ai pas oublié, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié.
Je reviens.
La question de Roselyne est très bonne. Sergueï Jernov.
Il faut pas crier sur la France, parce qu'en fait, c'est la situation dans toute l'Europe. Vous allez rigoler, mais en fait, le seul pays qui est capable de mobiliser en 48 heures 2 millions d'hommes, c'est la Suisse. C'est la Suisse, parce que le principe est complètement différent. En Suisse, tout le monde est militaire, tout le monde a son fusil à la maison, tout le monde fait son truc de réserviste deux fois par an, de deux semaines ou d'un mois. Et donc, la Suisse est capable, en 48 heures, de mobiliser 2 millions de personnes. La deuxième armée qui est capable de faire ça, ce sont les Finlandais. Les Finlandais, parce qu'ils sont têtus, parce qu'ils sont, ils ont une armée de 280 000 personnes, et ils ont le souvenir de la guerre de 1939 contre l'Union soviétique, et ils ont 1350 kilomètres de frontière commune avec l'URSS, enfin, avec la Russie de Poutine. Donc, eux, ils sont préparés à ça. Maintenant, il y a les Polonais qui se préparent, il y a les Pays-Baltes qui se préparent, mais bon, après, les Pays-Baltes, les trois Pays-Baltes, c'est 10 millions d'habitants.
On va répondre à la question de Rosine, absolument.
D'abord, quand même, on ne peut pas reprocher aux militaires de demander plus de moyens.
Surtout vu le contexte et l'inquiétude générale.
Mais pendant ces années de paix, avant la guerre en Ukraine, il y avait d'autres priorités. Il y avait la santé, il y avait l'école, il y avait... Donc, on ne peut pas non plus... Et puis, deuxièmement, ce que je trouve dans la démonstration qui est faite, on oublie quand même que nous avons l'arme nucléaire. Et que même si on n'a pas la même capacité que la Russie d'aligner 3000 chars, etc., on a quand même une petite bombe atomique.
Vous savez ce que vous faites, vous spoiler la suite encore.
Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, on peut pas se contenter de dire nous n'avons pas les moyens, sans rappeler quand même qu'on a une arme de dissuasion qui est la seule en Europe.
Vous savez qui a dit ça aujourd'hui
et qui est un élément.
Le président de la République. Mais c'est le président de la République, évidemment.
Discours permanent.
Vous êtes exactement. Mais effectivement, Emmanuel Macron aujourd'hui a répondu à nos interrogations d'une certaine manière en expliquant qu'effectivement l'armée française devait changer. Conférence de presse sur le Dixmude, porte hélicoptère de l'armée française. On est dans la rade de Toulon. Emmanuel Macron explique effectivement qu'il faut changer pour coller à cette menace de guerre à haute intensité, mais comme vous le dites, en n'oubliant surtout pas une chose.
Aujourd'hui, plus encore qu'hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Nos forces nucléaires contribuent donc, par leur existence propre, à la sécurité de la France et de l'Europe. Le redire ici est nécessaire, tant les discussions sur ce sujet se sont banalisées, là où il faut garder la même sobriété dans la doctrine pour garder la même crédibilité. Mais gardons-nous d'oublier que la France a bien la dissuasion nucléaire et gardons-nous parfois de dramatiser quelques propos.
Xavier Tittelmann, l'arme nucléaire et la protection absolue contre la survenue d'une guerre à haute intensité sur notre sol, ça n'arrivera pas parce que nous sommes une puissance nucléaire ?
Parce qu'on est capable de raser n'importe qui souhaiterait essayer de nous envahir. Oui, sur notre sol, il n'y a aucun doute. C'est pour ça aussi que la guerre de haute intensité sur notre sol est hautement improbable. La dissuasion, comme tu le disais à l'instant, on s'en sert tous les jours, systématiquement. C'est une menace pour tous ceux qui voudraient essayer de s'en prendre à nos intérêts vitaux, y compris sur nos lignes de communication. Donc vraiment, c'est une garantie absolue. Néanmoins, il faut quand même qu'on se renforce sur les autres moyens. Il faut aller plus loin que les augmentations de budget qui étaient déjà programmées depuis quelques années.
Le nucléaire, ça préserve, ça protège du nucléaire. Ça, on en est sûr. C'est-à-dire que voilà, on ne va pas attaquer la France avec des armes nucléaires parce qu'il y aura forcément riposte. On dispose de ce qu'on appelle une capacité de deuxième frappe. Quoi qu'il arrive, même si on nous attaque massivement, on aura toujours les moyens de riposter. Donc ça, là, ça nous protège d'une attaque nucléaire, ce qui est déjà considérable. Après, pour le reste, c'est plus flou. C'est beaucoup plus flou.
D'où, si on nous attaque avec des armes conventionnelles...
D'où l'intérêt d'avoir, effectivement, des armes conventionnelles, d'être puissant conventionnellement pour faire face à toutes les situations, ne pas se retrouver dans une situation, justement, de tout ou rien.
Sergueï Janov, et après, vous n'échapperez pas à la question de Rosine Bachelot.
Quelque chose de très intéressant aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit « La France protège, avec sa force nucléaire, la France est l'Europe. »
Oui, c'est ça. Absolument.
Ça, c'est... Je crois que c'est la première fois qu'il a dit aussi clairement.
Ça intervient dans le débat avec les Allemands, justement. C'est bien parce qu'il y a en ce moment des hiatus entre la stratégie voulue par l'Allemagne et par la France.
Au bon moment.
Emmanuel Macron rappelle que la France a cette arme nucléaire qui protège l'Europe. Et en ce moment même, parce qu'il parle aussi d'Europe de la défense, il a beaucoup parlé de nos amis allemands, mais avec les Allemands, on est d'accord sur rien. Sur la défense en ce moment. Les avions américains et le dôme israélien de protection antimissile. Et en gros, la France n'est pas d'accord avec l'Allemagne. Donc en fait, ce qu'il a dessiné là et les appels du pied qu'il a lancé à l'Allemagne, c'est aussi le grand défi pour l'Europe et ça se joue dans les semaines et dans les mois qui viennent.
Vous avez dit Tellman, vous disiez ?
En fait, la France a l'habitude d'être leader dans tous les programmes de défense, quels qu'ils soient, sans exception. Et là, effectivement, l'Allemagne a décidé de lancer un programme en excluant la France, qui est un programme de défense aérienne qui regroupe plus ou moins tous les pays d'Europe de l'Est. les Israël et des moyens américains. Mais la France n'est pas dedans.
Et le Royaume-Uni.
Donc en fait, ils ont fait tout le tour, mais c'est vraiment un coup de poignard de plus de la part des Allemands sur tous les grands programmes qu'on peut avoir depuis des années.
Polonais aussi.
Et les, oui, vraiment tout l'Europe de l'Est d'une manière générale.
Roselyne Bachelot, pour que les choses soient claires, est-ce que vous pourriez reposer votre question, s'il vous plaît, à laquelle nous n'avons toujours pas répondu?
Quand on regarde l'affrontement entre les Russes et les Ukrainiens, on se rend compte qu'il y a une partie de mental, de défense du territoire, de patriotisme du côté des Ukrainiens qui est presque, je pense, aussi important que la force militaire proprement dite. Est-ce que vraiment dans un pays qui est autant démobilisé que la France, j'ai fait des campagnes européennes, quand je disais l'Europe c'est la paix, on me disait mais c'est tout ça, c'est du passé, la guerre, il n'y aura jamais la guerre en Europe. Les gens n'y croient absolument pas à l'idée qu'il puisse y avoir une guerre sur notre sol. Si elle arrivait, est-ce qu'on n'est pas un pays finalement complètement démobilisé? Est-ce qu'on n'a pas perdu notre force mentale?
Colonel Goya.
Alors, un petit exemple historique. En 1933, il y a un débat qui est mené à l'université d'Oxford, Royaume-Uni, et la question qui est posée, c'est est-ce que vous êtes prêt à mourir pour le roi et la patrie? Et donc, là, il y a débat, et puis après, on vote, et à une écrasante majorité, les étudiants et les anciens étudiants répondent non, jamais, en aucun cas, nous mourrons pour le roi et la patrie. Six ans plus tard, nous sommes en 1939, la Royal Air Force arrive à Oxford et demande des volontaires, et les mêmes qui avaient voté contre.
Je crains que vous ayez des références un peu datées.
J'ai pas fini.
Allez-y, finissez.
Les mêmes se mobilisent en masse. 1990, c'est la guerre du Golfe. D'un seul coup, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que je reviens un peu en arrière, 13 juillet 1990, défilé, le chef d'état-major de l'armée de terre vient voir les porte-drapeaux dont j'étais, et fait un laïus, et nous dit, regardez, on a un super modèle d'armée, on est capable de faire face en Allemagne, on a des forces, les appelés, qui sont capables de faire face à n'importe quelle menace, on a une petite force professionnelle pour les opérations extérieures. Très bien, on a un modèle pur et parfait. Bon, quelques semaines plus tard, l'Irak envahit le Koweït, et là, patatras, on lui dit, les gars, on va faire la guerre au Koweït. Ah, quelque chose qui était complètement impensable. Donc, il faut toujours ne pas insulter l'avenir, mais surtout dans cette guerre, mais tout le monde imaginait que c'était une guerre contre un État, à grande échelle, et extraordinairement meurtrière, qu'on attendait, meurtrière. Les unités militaires avaient reçu des centaines de body bags pour mettre les cadavres de soldats, et c'était quelque chose qui avait été accepté. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la situation change complètement les perceptions, radicalement. La France serait attaquée, je suis persuadé qu'on se lèverait en masse et on se comporterait comme les Ukrainiens.
Vous avez dit
tellement. Absolument persuadé.
Moi, je partage totalement cet avis. Il y a énormément de patriotes. On ne s'en rend pas compte à quel point les gens aiment ce pays. Ils se rendent compte, surtout maintenant, avec l'actualité, on se rend compte de ce qui se passe dans le monde. Regardez, après les attentats du 13 novembre, le nombre de jeunes qui sont engagés dans les armées. Dans les armées, il n'y avait même plus de place. D'habitude, on a du mal à recruter. Il y a eu des demandes en trop. Il y a eu dans la réserve. Moi, je travaillais notamment pour le recrutement dans la réserve opérationnelle. Mais il y avait des jeunes partout qui voulaient s'engager juste à cause des attentats, alors que ce n'était pas une menace directement militaire. Moi, je suis convaincu que demain, il y a une vraie menace sur la France. On a des centaines de milliers de jeunes qui viennent, qui se battent et qui y vont. J'en fais partie d'ailleurs, mais j'en suis convaincu. On a une force.
Vous avez une petite formation qu'on n'a pas, par exemple, avec Antonin.
Non. Oui, mais je vous adresse.
Non, mais voilà. Mais vous voyez ce qu'on veut dire, c'est que il y avait aussi ça dans la question de Roselyne. On est tellement loin.
Moi, mais c'est pour ça.
Vu mon âge, je suis la première génération à ne pas avoir eu à faire, ne serait-ce que 3 jours.
Non, mais là où
les 3 jours dans l'armée.
C'est en cela que l'on voit concrètement que la guerre en Ukraine a tout changé.
Ben oui.
Mais le drame, c'est pas simplement que les Français ne sont pas préparés, parce qu'ils ne sont pas préparés. Le président de la République a dit, il faut doubler la réserve. Ouais. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a aujourd'hui 20 à 30 000 Français qui sont prêts à partir tous les week-ends ou pendant leurs vacances faire de l'entraînement dans les camps? Est-ce qu'ils sont là? Il faut, dit-il. Il faut aussi un service universel. Est-ce qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes qui peuvent le faire? Mais la guerre a tout changé, donc ça va changer effectivement, je pense, la réflexion des jeunes Français et des Français en général. Mais le drame aujourd'hui, c'est qu'on aurait pu effectivement imaginer que s'il y avait une Europe de la défense, eh bien, et s'il y avait vraiment une motivation européenne pour se préparer à une guerre éventuelle en Europe, eh bien, la guerre en Ukraine aurait été le sursaut nécessaire. Le problème, c'est que la guerre en Ukraine a fait revenir les Américains en Europe, a fait revenir l'Alliance Atlantique en Europe, et qu'aujourd'hui, de nouveau, c'est le bouclier atlantique qui préserve l'Europe de la guerre. Et aujourd'hui, malheureusement, la France est seule. Et le président Emmanuel Macron est seul. Et les Allemands, ça vient d'être dit très justement, ont planté un poignard dans le dos de la défense européenne et de la France.
Pardon, Élise, mais...
Et ça provoque un divorce franco-allemand qui est d'une intensité quasiment jamais atteinte, parce que c'est l'essentiel qui est en jeu.
Avec des si, on peut tout imaginer, mais...
Non, mais on est incapable de fabriquer...
Mais c'est pas terminé.
Sans les Américains... Un avion de combat franco-allemand...
les négociations.
Oui, enfin, on est très mal parti quand même. Alors que ça aurait pu être exactement l'inverse.
Ulysse Gosset, sans les Américains, les Russes seraient à Kiev aujourd'hui?
C'est-à-dire que les Américains ont aidé effectivement énormément les Ukrainiens en leur donnant du renseignement, mais il y a aussi une autre chose qui a favorisé la résistance remarquable des Ukrainiens, c'est qu'ils étaient en guerre depuis 2014. Et ça fait depuis 2014 qu'ils se préparent. En 2014, ils ont été battus par la Russie. Ils ont subi une défaite radicale qui leur a fait prendre conscience de leur faiblesse. Et de 2014 à 2022, ils se sont préparés, et c'est vrai, avec l'aide des Américains.
Sergueï Zhirinov.
Et des Britanniques.
Ulysse Gosset a tout dit, hein. Ça continue, en fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'en fait, les Ukrainiens, ils ont pas non plus été préparés pour la guerre. Et il leur a fallu 8 ans pour apprendre cette guerre. Après, ils étaient intelligents parce qu'en fait, ils ont fait circuler un certain nombre de personnes sur le front. Et donc, ils ont préparé cette défense. Mais pour les Français, vous savez, ils sont pas si seuls que ça. Parce que, en Ukraine, vous avez la Légion étrangère. Où il y a des Français, où il y a des volontaires français qui, quand ils ont entendu des Russes envahir, mais bon, ils sont là quand même, ça veut dire que
c'est très minoritaire. Il y a toujours des gens. C'est pas pour ça qu'il y a une mobilisation.
Parce que c'est loin, hein. Parce que c'est un pays étranger, parce que ça se trouve à 2000 km de la France. Lorsque vous aurez une guerre, enfin, espérons qu'il n'y en aura pas, sur le sol français, ça change complètement. D'ailleurs, pourquoi on dit, et pourquoi moi je continue toujours à dire que Poutine ne pourra jamais gagner cette guerre? Parce que les Ukrainiens, ils défendent leur sol. Les Russes ne pourront pas gagner cette guerre parce qu'ils sont envahisseurs. En fait, ils envoient les gens qui ne comprennent même pas pourquoi ils se battent.
D'un mot, j'ai une question pour Xavier Tittelmann. Parce que le président aussi parlait, et ça rejoint aussi la question des budgets, de la cyberguerre et notamment de ce qui se passe dans le ciel. C'est-à-dire que là, on le voit en Ukraine, il n'y a jamais eu autant de satellites qui ont été utilisés pour faire la guerre là, c'est inédit. Et on voit en plus que parfois, ce n'est pas les États, mais en l'occurrence, Elon Musk, qui avec Starlink a quasiment plus de moyens que les États eux-mêmes pour pouvoir intervenir dans une guerre. Donc ça pose quand même la question.
Notamment pour fournir de l'Internet à l'armée ukrainienne.
Et ça, c'est un angle mort aussi de notre défense, si je m'abuse.
Oui, mais alors, il y a les démocraties libérales occidentales, avec le Japon, là, etc., la Corée, Taïwan, et nous, l'Europe, les États-Unis. En fait, c'est nos armes. C'est à nous, cette technologie. Que ce soit les satellites d'observation civile qui sont partagés, vous pouvez acheter aujourd'hui des photos satellites qui sont utilisées sur l'Ukraine, dans les groupes open source, vous pouvez chercher ça sur Internet, c'est absolument incroyable. Et en fait, cette puissance-là, elle n'est pas nationale, elle est commerciale, et n'importe qui peut y avoir accès en achetant ces éléments-là. Donc c'est vrai qu'en tant que souverainiste qui voudrait avoir une autonomie nationale stratégique, on sait tout faire, il faut être réaliste. Ce qu'on ne sait pas faire au niveau national, il faudrait savoir le faire au niveau européen. Et tous ces équipements-là qui existent et qui sont à la disposition de tous ceux qui veulent le payer, évidemment, ils sont plutôt du côté occidental. Donc si demain il y avait une guerre avec, je ne sais pas qui, les Russes, je pense que, très clairement, le choix se ferait d'Elon Musk et de ses amis de fournir ces équipements à notre camp plutôt qu'à nos ennemis.
Non, j'ai l'autre question là aussi, ingénue, mais je trouve quand même un peu curieux que des militaires de haut rang décrivent une armée française pratiquement en grande difficulté, c'est-à-dire qu'on se dit on peut avoir la possibilité d'une guerre de haute intensité sur notre sol, mais alors là, nous, vraiment, on n'a pas assez d'avions, on n'a pas assez de chars, on n'a rien, on a des crédits militaires. Je trouve ça un peu ahurissant comme démarche. S'ils ne sont pas capables de convaincre les responsables politiques dans le secret de l'Élysée et qu'ils viennent étaler sur la place publique qu'on est nul, moi je trouve ça quand même un peu ahurissant.
Qu'est-ce qui a changé notre politique de défense? Ce sont les attentats de 2015. Ce sont les attentats qui, accessoirement, n'étaient pas du tout une surprise. C'était marqué dans tous les livres blancs, dans tout le livre, voilà, qu'il y avait des attentats terroristes en France.
Mais
là, on a changé notre politique complètement à partir de ce moment-là. Quelques mois plus tôt, il y avait le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et tous les chefs d'état-major avaient menacé, en 2013, avaient menacé de démissionner parce que la loi de programmation militaire était en difficulté, parce que le véritable ennemi des armées françaises, c'est Bercy.
Moi, c'est clair.
À l'époque, c'est Gérald Darmanin qui avait essuyé les foudres du général de Villiers en 2017.
Et du colonel Goya.
Le budget de la défense.
Ah oui, pardon, de réinsister là-dessus, colonel.
Pierre Demilly avait dit devant la commission de la défense, pardon, je ne vais pas me laisser baiser.
Oui.
Ce qui avait provoqué.
Non, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé?
Sa chute.
Parce que justement, en 2015, on arrête de couper dans les effectifs. On avait entrepris de supprimer 80 000 postes dans les armées quand même. Et on était presque à ce moment-là. 2015, on dit, bah voilà, attentat, on change de politique. Parce qu'il y a les attentats. C'est-à-dire trois salopards qui ont attaqué Charlie Hebdo et l'hypercachère ont eu plus d'influence que tous les gens raisonnables qui expliquaient qu'il fallait...
Ça me surprend.
Mais pour prolonger la question de Roselyne Bachelot que j'avais dit, Talman, en gros, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a ce discours cet après-midi d'Emmanuel Macron à Toulon qui dit on va tout changer.
Oui.
On va changer pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on va changer concrètement et dans quel délai?
Eh ben, la troisième ligne d'assemblage des Césars, de l'artillerie, est en train d'être mise en place pour ouvrir d'ici le mois de décembre. Donc, de la même manière qu'on est capable d'augmenter la cadence sur un certain nombre d'équipements qui sont absolument nécessaires, il va falloir le faire sur la totalité du spectre. Plus d'avions de chasse, c'est prévu. Une marine plus puissante, on est en train de renouveler tous ces équipements. Le gros avantage de la France, c'est qu'on a continué à développer des technologies. On en a acheté des échantillons. Mais maintenant, on a les technologies et on peut relancer les usines beaucoup plus facilement que si on n'avait pas continué à développer cette techno. Donc ça, c'est un gros avantage pour la France comparativement à ses voisins.
Il y a aussi un changement de modèle qui est fondamental.
C'est-à-dire que
jusqu'à présent, le modèle de l'armée française, c'était le corps expéditionnaire, c'est les opérations extérieures, c'était intervenir...
C'était Barkhane, c'est fini.
En Côte d'Ivoire, au Mali, pour éventuellement secourir les Français. Hein, c'était sauter sur Colvézi pour secourir les Français. C'était intervenir pour aider les Français qui sont en difficulté dans les ex-colonies, il faut le dire. Aujourd'hui, le modèle est complètement différent. C'est-à-dire qu'on abandonne le corps expéditionnaire et on se concentre sur une armée qui est faite pour défendre le territoire national en cas de guerre d'atrocité. Et alors, sur les militaires et sur les généraux, le général Burkel, l'actuel SEMA, chef d'état-major, il sonne quand même l'alarme depuis plusieurs années. Et c'est lui qui a remis sur la place publique le fameux terme de guerre de haute intensité. Lorsqu'il l'a dit la première fois, personne n'a compris ce que ça voulait dire. Mais ça voulait dire la guerre approche.
Je dis au
la
passage guerre... qu'on serait ravis de le recevoir.
Mais on lui a proposé.
Bah, je sais.
Et nous attendons qu'il vienne.
Voilà.
Mais lorsqu'il a dit guerre de haute intensité, on s'est demandé ce qu'il voulait dire. Ben, il voulait dire qu'il faut se préparer au pire. Et le pire est arrivé en Ukraine. Et c'est ce sursaut provoqué par la guerre en Ukraine qui a fait que le pays entier a pris conscience du danger et de la nécessité de changer de modèle.
Ça, c'est quand même pour tripler le nombre de Césars, ce qu'on nous dit.
Non, mais ça, c'est pas uniquement ça.
Il faut quand même. Voilà, ça se fait pas quand même du jour au lendemain.
Non, mais la loi de programmation militaire, c'est sur combien d'années? 6 ans?
C'est variable.
Ouais, 5 à 7.
5 à 7 ans. Il faudra au minimum 5 à 7 ans.
Non, mais encore une fois, ça fait des années qu'on parle que le paysage stratégique a changé. On le dit, voilà, maintenant, la priorité, c'est la confrontation avec différents États, différentes puissances. Confrontation, ce n'est pas la guerre. C'est retour à une forme de guerre froide et la capacité à continuer la lutte contre les organisations armées, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et ça fait des années qu'on le dit. Et encore une fois, il faut des événements.
Revenir à 3%.
Sergei Gerlof, ensuite, j'ai une question pour vous.
Il faut les événements pour changer les choses.
Pour répondre encore une fois à la question de Roselyne. La question, le problème de l'armée, c'est qu'en fait, ça coûte de l'argent et en temps de paix, ça ne produit rien. C'est ça le problème. C'est pour ça d'ailleurs.
On peut vendre aussi des matériels.
Et ça, c'est un très très bon argument. Vous savez ce qui est en train de se passer? La Russie a démontré, deuxième exportateur d'armes dans le monde, qu'elle ne valait rien, les armes russes. Donc, l'exportation russe va chuter. Personne ne voudra acheter les armes russes. La France est le troisième. Et donc, la France a maintenant la chance, parce que les Césars, on les voit sur le front ukrainien. Et donc, la France peut relancer la machine de production de militaires, y compris pour exportation. Et là, ça gagne de l'argent.
Ulysse Gosset, question. Dans un monde idéal, si j'avais sous le coude un nouvel extrait de l'interview du général de Villiers, ce serait quoi, par exemple?
J'aimerais bien demander au général de Villiers s'il pense que la guerre en Ukraine est l'une des... est une préoccupation pour la France, et pourquoi?
On écoute la réponse du général de Villiers.
Il est temps de revenir à une approche de paix pour mettre tout le monde autour de la table. Cette guerre n'est pas l'intérêt des pays européens et certainement pas de la France, peut-être des Américains, certainement pas pour nous.
Alors cette phrase, elle interpelle quand même.
Ah bah oui,
c'est pour ça qu'on l'a choisie, évidemment, ce soir. Cette guerre, ça n'est pas l'intérêt de la France, pas l'intérêt de l'Europe. peut-être l'intérêt américain. Vous acquiescez, Xavier Tellman?
Évidemment. Alors, il y a deux grands blocs qui profitent de cette guerre, c'est la Chine et les États-Unis. Il y a un bloc qui souffre plus que les autres, c'est clairement l'Europe. On a tous les problèmes en même temps. On a à la fois les soucis avec l'énergie, l'approvisionnement, on n'est pas les armes nous-mêmes, on n'est pas stratégiquement autonome pour se défendre s'il y avait besoin dans cette guerre. Donc ça montre encore plus notre dépendance. Et au niveau économique, ça nous enfonce, alors que ça a plutôt tendance à favoriser les Américains pour leurs exportations d'armes, et eux qui ne sont pas dépendants.
Mais pardon, mais l'intérêt de la France, ça n'est pas aussi de défendre la démocratie, ça n'est pas aussi de défendre un pays voisin et ami face à un envahisseur?
Moi, je veux absolument qu'on défende l'Ukraine et qu'on lui fournisse les armes pour qu'elle puisse se défendre. Ça, c'est une certitude. Mais économiquement, il a raison. On ne fait pas partie d'un bloc qui va sortir grandi de cette crise si on regarde dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est évident qu'on n'est pas un bloc qui va en profiter. Les États-Unis vont certainement en profiter parce qu'ils relancent leur leadership, parce qu'ils vendent plus d'armes, parce qu'ils ne sont pas dépendants des importations d'énergie.
Ils ont atteint tous leurs objectifs.
Mais bien sûr.
Oui, mais ce n'est pas une raison pour se désintéresser et de dire effectivement, la guerre n'est pas dans l'intérêt de la France.
Mais je ne pense pas ce que...
Le message, c'est qu'il faut revenir à la table de négociation. Et c'est ça, c'est à nouveau cette petite musique qu'on entend à Washington, à Paris et ailleurs. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui, d'abord? Et puis surtout, quel est l'intérêt de la France? Est-ce que c'est de laisser la Russie, par exemple, conquérir l'Ukraine, et puis après les Pays-Baltes, et puis après la Moldavie, et puis après la Géorgie, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Après, la prochaine frontière, c'est quoi? Donc, et c'est là où on est face à une guerre de haute intensité. Donc oui, la France a intérêt à ce que la guerre soit gagnée par l'Ukraine pour montrer à ce type de régime autoritaire et qu'ils n'hésitent pas à violer la Charte des Nations Unies que cette guerre ne peut pas être gagnée par l'envahisseur.
Il faut qu'il la gagne le plus rapidement possible. Et si on avait mieux armé l'Ukraine, ce serait déjà fini. C'est aussi mon point.
Il ne dit pas qu'il ne faut pas
faire la guerre.
Qu'il ne faut pas aider l'Ukraine.
Oui, bien sûr, c'est vrai.
Attention.
Non, mais vous avez raison de le préciser, absolument. Non, mais il le dit très clairement, le général de Villiers, évidemment, ce matin. Mais quand même, comme le dit Ulysse Gosset, il y a cette petite musique où on peut se dire aussi que, en entendant ça, Poutine se dit tiens, peut-être que ça craque un peu aussi. Et qu'il y a de la lassitude et qu'au bout de 9 mois de guerre, on finit par dire à un moment donné, peut-être que ça s'arrête effectivement.
Moi, je dirais, il y a autre chose, il y a quelque chose de pire. Ça, j'ai senti, malheureusement, même quand j'étais encore espion, c'est qu'en fait, dans l'armée française, il y a beaucoup d'empathie pour la Russie. Cette musique, c'est surtout les généraux, c'est les officiers. Pas mal de généraux disent ah oui, mais c'est pas notre peut-être pas
général.
Oui.
On en parlera un autre jour.
Là où je suis pas d'accord avec général de Villiers, c'est que lui, il croit que c'est pas sa guerre. Et Poutine, lui, il a dit. La France, c'est mon ennemi. L'Europe est mon ennemi. L'OTAN est mon ennemi. Jirinovski, il y a 4 ans encore...
Non, il n'a pas dit l'Europe, il a dit l'OTAN.
L'OTAN, il est où?
Non, mais l'OTAN et l'Europe, ce n'est pas la même chose.
Justement. Mais il y a d'autres personnes autour de Poutine, comme Medvedev, comme Patrouchev, comme Jirinovski, qui, eux, désignaient les capitales européennes. Ils ont désigné l'Angleterre, ils ont désigné la France, l'Allemagne, les Pays-Baltes, la Pologne,
etc. Je m'arrête quand même sur cette empathie dont vous parlez. Qu'est-ce qui vous permet de dire que dans l'armée française, il y a une empathie, et Roselyne Bachelot avait l'air d'acquiescer d'ailleurs, une empathie...
Il y a des réseaux, oui, il y a des réseaux russophiles, ils sont connus depuis longtemps. Hein.
Mais
il y en a dans la vie politique française.
Bien sûr, bien sûr. Mais dans l'armée, qu'est-ce que vous avez vu de cette empathie?
J'ai vu les réactions quand je disais que j'étais russe. J'ai eu une très très bonne déjà réaction par rapport à moi chez les militaires.
Accueil.
Un très très bon accueil. Et non seulement un bon accueil, mais avec les retours historiques vers la Deuxième Guerre mondiale, vers la Russie, l'armée rouge qui a libéré l'Europe, y compris en oubliant que ce sont les Américains qui ont libéré la France.
Et donc, les Soviétiques.
Avec les Soviétiques. Et donc, en fait, il y avait cette atmosphère, il y avait cette petite musique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand j'étais à l'ENA en 1991 pour infiltrer l'ENA en tant qu'espion, j'ai choisi faire du sport de l'équitation, parce que ça se passait à l'école militaire, et je me disais qu'à l'école militaire, au détour d'un petit manège, je pourrais rencontrer des officiers.
Mais vous êtes un petit salopard.
Absolument.
Absolument. Repenti.
Mais attendez, on va rester autour du manège. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes au manège et que est-ce qu'effectivement ça marche, enfin est-ce que ça a marché? Qu'est-ce que vous avez obtenu de ça?
Non, j'ai eu de la chance en fait. Le KGB a disparu de lui-même au mois d'octobre 1991.
C'est vrai, effectivement.
Voilà. En fait, et l'Union soviétique a disparu. Donc du coup, ma mission a été coupée. La chance. Ouais. Et donc j'ai donné ma démission et je me suis libéré de cette saloperie.
Colonel Goya,
oui.
L'empathie.
Je pense qu'il y a... oui, c'est incontestable, mais je pense que c'est surtout déjà par anti-américanisme. En fait, le vrai sentiment, c'est l'anti-américanisme, qui est très, très puissant.
Ça peut paraître fou dans notre armée.
Un complexe d'infériorité.
Après ce qui s'est passé il y a 70 ans, quoi.
Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, c'est un fait. Alors, c'est la foi
c'est
par.
C'est plus la volonté de préserver l'indépendance.
Oui, c'est ça. Plus par souverainisme, par indépendance.
C'est anti-américanisme parce qu'on sait ce que l'on doit aux Américains.
Si, on sait qu'aujourd'hui.
Non, mais c'est surtout. C'est De Gaulle. C'est De Gaulle qui veut être indépendant et qui dit aux Américains on garde la force de dissuasion nucléaire, on entre dans l'OTAN, mais on reste indépendant pour le nucléaire. Et on marque bien notre indépendance. De Gaulle, en fait, finalement, était détesté par les Américains parce qu'ils savaient bien à qui ils avaient affaire. Et il a tenu bon, et heureusement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette force de dissuasion. Donc, volonté d'indépendance des militaires. Bon, mais c'est vrai qu'il y avait... Et puis, sur le plan historique, on peut comprendre qu'un certain nombre de militaires russes, de haut niveau, aient une certaine forme de respect pour la grande puissance qu'a été la Russie à travers l'histoire. Il n'y a pas que le siècle précédent.
L'escadrille Normandie-Yémen.
Mais non, par exemple. La bonne entente. Donc, ça peut s'expliquer, mais c'est vrai que c'est troublant. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques militaires français qui ont été retournés, pas beaucoup, mais qui ont été convaincus d'espionnage au service de la Russie, de l'Union soviétique.
Cette empathie, vous avez pu la ressentir, colonel? Vous, personnellement?
Oui, je connais, oui. On a un certain nombre de gens, oui, qui sont très militaires ou d'anciens militaires.
Elle est intéressante, cette émission. Hein. Ouais. J'ai l'impression de jouer dans James Bond.
Pendant la guerre en Serbie, dans les Balkans, on a vu qu'un certain nombre d'officiers français n'étaient pas forcément enthousiastes à l'idée de faire alliance avec les Américains pour lutter contre les Serbes.
Oui, bien sûr. Il y a le côté religieux aussi, parfois. Le côté chrétien, notamment en Bosnie. Pourquoi on combat les Serbes ou les Bosnes-Serbes et qu'on soutient des musulmans, quoi, par exemple. Oui, ça joue aussi. Il y a quand même un très fort trumpisme catholique, chrétien, au moins dans le corps des officiers, surtout des officiers très supérieurs. Oui, incontestablement, ça joue. Tout ça, ça joue. Alors que l'URSS a été quand même l'ennemi. Moi, j'ai commencé à apprendre le russe au début de ma carrière, on était obsédé par...
Ah, mais vous aussi, vous êtes un espion.
J'aurais très mauvais.
Militaire.
Voilà, on était... j'ai passé des années à étudier l'URSS, son histoire, étudier l'armée soviétique, évidemment, tout ça. On était fasciné par cet adversaire, incontestablement. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Dans un... comment dire, un homme fort... un régime un peu fort, un peu qui est un peu
qui commande en épaulette.
Oui, ça peut voilà. Ça
non, mais
peut
qui ne se fait pas dicter sa conduite. Oui. C'est un pays qui a une autonomie stratégique, qui la développe, qui veut être indépendant, qui ne se laisse pas dicter sa conduite par les Américains. Ça peut plaire à n'importe quel pays qui veut une souveraineté. Et donc je comprends. Et moi, je fais partie des gens qui pensaient jusqu'à ce que Poutine envahisse l'Ukraine en 2014 qu'il avait une politique qui était pas mauvaise pour la Russie, qu'il faisait ce qu'il fallait et qu'il ne défendait que les intérêts de son pays. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de populations, pas que chez les militaires.
Mais est-ce que tout ce que l'on vient de dire, ça peut aussi expliquer la surprise que l'on vit depuis 8 ou 9 mois maintenant face à l'effondrement de l'armée russe On avait une image de l'armée russe qui était beaucoup plus valorisée et positive que ce qu'elle est en train de faire.
Parce que l'Occident ne s'opposait pas. C'est-à-dire que Poutine a quand même eu les mains libres en Tchétchénie, il a eu les mains libres en Géorgie, il a eu les mains libres en Crimée. En fait, il n'a jamais connu de résistance. Et il a toujours exalté la force, l'indépendance, l'autonomie, et y compris dans les sommets internationaux. Moi, j'en ai couvert quelques-uns où Poutine était là et où Poutine tenait le bras de fer à tous les chefs d'État occidentaux et sans jamais scier, alors que les autres essayaient en force de le faire plier. Et donc, tout le parcours de Poutine, c'est l'histoire d'une Russie qui est la démonstration de la force et avec peu de résistance en face. C'est la première fois que à la force de Poutine s'oppose une résistance massive
et unanime des Occidentaux qui mettent les moyens.
On aurait pu continuer des heures. Je vous remercie évidemment d'avoir été avec moi tous les six ce soir. C'était passionnant, absolument passionnant.